La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Edgar Poe, devenu Edgar Allan Poe, après qu'il ait été adopté par un riche commerçant du nom de John Allan, a traîné durant des décennies une légende peu flatteuse d'alcoolique et de dépravé. Il faut dire que son exécuteur testamentaire n'avait pas ménagé ses efforts pour faire prospérer cette image. L'ex-révérend Griswold, qui avait rédigé à la mort de l'écrivain une nécrologie infamante et qui était devenu son exécuteur testamentaire, comme nous l'a raconté lundi Isabelle Vieville-Desgeorges au cours de notre émission biographique. Hier, c'est Henri Justin qui est venu à ce micro pour présenter quelques grands axes de compréhension de l'œuvre de Poe et notamment son choix de la prose plutôt que de la poésie. Enfin, nous terminerons demain notre panorama en compagnie de Jean-Pierre Nogrette qui parlera plus particulièrement du double assassinat dans la rue Morgue ainsi que des aventures d'Arthur Gordon Pym. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment de la manière dont Poe a été introduit en France par Baudelaire, mais pas seulement par lui, nous sommes en compagnie de Thierry Gilibeuf qui vient de faire paraître aux éditions Phébus le premier tome des nouvelles intégrales de Poe qu'il a retraduites avec Christian Garcin. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai à écrire l'histoire d'un de ces illustres malheureux, trop riche de poésie et de passion, qui est venu après tant d'autres faire en ce bas monde le rude apprentissage du génie chez les âmes inférieures. Lamentable tragédie que la vie de Poe. Sa mort, dénouement horrible dont l'horreur est accrue par la trivialité. De tous les documents que j'ai lus, est résultée pour moi la conviction que les États-Unis ne furent pour Poe qu'une vaste prison qu'il parcourait avec l'agitation fiévreuse d'un être fait pour respirer dans un monde plus aromal qu'une grande barbarie éclairée au gaz, et que la vie intérieure, spirituelle, de poète ou même d'ivrogne, n'était qu'un effort perpétuel pour échapper à l'influence de cette atmosphère antipathique.
Bonjour Thierry Gilibeuf.
Bonjour.
Ce portrait que Baudelaire fait de Poe, qu'on vient d'entendre, en homme alcoolique et génial, mais incompris par un pays trop matérialiste, on sent qu'il est inspiré justement de son exécuteur testamentaire et de la petite nécrologie qu'il avait fait de lui. À quel point est-ce que ce portrait vous semble tout de même proche de la réalité ?
Je pense que, enfin, si on peut dire deux mots sur le révérend Griswold, c'est un cas fascinant en fait de la littérature. Je crois que si c'était pas autoproclamé en quelque sorte un exécuteur testamentaire de Poe, on l'aurait complètement oublié parce que c'est un écrivain mineur, même s'il a publié une première anthologie de la poésie américaine. Et on a le cas d'un pathologique, d'un type maladivement jaloux.
D'un pervers peut-être.
Ah oui, d'un type, alors aujourd'hui on dirait un pervers narcissique j'imagine, mais voilà, mais un type maladivement jaloux de Poe qu'il a fréquenté, qu'il a connu. Et dont il sait, je pense, c'est quelqu'un qui a compris le génie de Poe, et donc il s'est appliqué à le démolir, quoi. À la source, parce que la, je crois que la nécrologie qu'il signe du pseudonyme de Ludwig, il la publie 3 jours après la mort de Poe, quoi. Oui. Et ça, c'est ce qui va contribuer à la légende, parce que les amis de Poe, qui en avaient quand même quelques-uns, vont répondre dans la presse, et du coup, Griswold, au lieu de faire profil bas, etc., va surenchérir et carrément publier une espèce de biographie qui va servir de base, de passerelle pour Baudelaire d'ailleurs, hein, qui s'en inspirera complètement. Alors,
en même temps, est-ce que ça le dessert vraiment Poe? Parce que la légende du poète maudit, elle va aussi assez bien avec ses textes et elle a sans doute aidé aussi à la diffusion de ses
œuvres. Je pense qu'elle a contribué aujourd'hui, elle a contribué à ça, mais ça me... Enfin, disons que ça me... Pas que ça m'embête,
ça,
que ça me gêne, ça m'attriste un petit peu qu'il soit réduit à cela, parce que c'est quelqu'un, un personnage beaucoup plus compliqué que ça, et puis beaucoup plus intéressant, enfin, qui c'est pas simplement un type qui... D'abord, c'est quelqu'un qui ne supportait pas l'alcool. Voilà. Donc, il prenait deux verres, il était malade, il était sous. Et donc, il buvait modérément, à notre connaissance. Ah, c'est très drôle, parce que, bon, je pense qu'on en touchera deux mots tout à l'heure, mais il y a une très bonne biographie de Poe par George Walter, publiée aux éditions Phoebus.
Bah, on peut le dire tout de suite, voilà. En fait, c'est la meilleure biographie pour vous.
Ah oui, pour moi, c'est la meilleure biographie, parce que, d'abord, c'est un...
Il y a aussi celle d'Isabelle Ville de Georges, mais là, oui. C'est une traduction.
Voilà. C'est qui est une parce que c'est un document, c'est une œuvre littéraire aussi la biographie de George Walter. Donc. Et bon, il a un côté touchant parce qu'il veut, c'est l'inverse de Griswold, c'est un travail de réhabilitation. Et donc même quand il y a des témoignages avérés d'une ivrognerie de Poe, il va trouver une excuse pour l'atténuer. Donc c'est assez touchant ce travail de réhabilitation. Je pense que la légende le trait est un peu forcé, on va dire. Voilà. Et puis pour le reste, il y a un fondement de vrai, hein, bien entendu. C'est quelqu'un qui a tiré le diable par la queue en permanence. Il est quand même, bon, voilà, vous avez évoqué sa biographie, donc on ne va pas y revenir. Mais enfin, ses parents sont des comédiens. Le père a disparu, la mère meurt jeune. Il a un frère et une sœur. Ils vont être élevés tous les trois par des bonnes familles bostoniennes. Puis s'il a une relation très forte, très affective avec sa mère adoptive, avec son père adoptif qui va lui donner ce deuxième nom, hein, de Alan, les rapports vont se tendre énormément. Et puis c'est vraiment une malédiction, parce qu'il y a la légende du poète maudit, mais il y a aussi une malédiction qu'il a poursuivie. Il a quand même publié deux textes qui ont eu un succès énorme, le poème du corbeau, tout le monde connaissait ce poème par cœur,
ça n'a pas suffi à tirer un peu d'affaires.
Non, parce qu'il n'y avait pas parce que les droits d'auteur, ça n'existait pas. Mm. Voilà, les droits d'auteur, c'est bien après. Ça n'existait pas. Donc les Anglais pillaient les Américains et vice versa.
Les Français pillaient un peu aussi les Américains. Vous allez nous raconter
oui.
ça,
oui.
Parce que justement, c'est important dans la manière dont Poe est arrivé
en France.
Donc Baudelaire, évidemment, il est très important. Il donne cette image du poète maudit qu'il colporte un peu, il ne fait pas exprès, hein, c'est les informations qu'on lui donne, mais il l'a peut-être aussi tiré, Poe, vers une littérature fantastique, une littérature lugubre. Or, ça n'est pas que ça, mais ça a quand même beaucoup orienté la lecture qu'on fait ici de cet écrivain, Thierry Gilibeuf.
Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que... Enfin, grâce soit rendue à Baudelaire. Hein.
Vous pensez quand même que sans Baudelaire, Poe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, y compris aux États-Unis.
Sans Baudelaire, je suis en France, oui, sûr. Baudelaire a été indispensable à tel point que les deux noms sont complètement indissociables en France. Hein. Ce dont on s'est rendu compte avec Christian Garcin, c'est que contrairement à ce qui est répandu comme bruit. Dans le monde anglo-saxon, de nous dire Poe, c'est une langue... Baudelaire a embelli la langue de Poe, etc. Non, Baudelaire a fait une traduction rigoureusement exacte, et il a... C'est-à-dire rigoureusement exacte, à part quelques contresens ou autres comme ça qu'on a pu relever, mais bon, rigoureusement exacte aussi par rapport au style de Poe. Donc il n'a pas embelli le style de Poe, il l'a embrassé, il a fait ce que tout traducteur fait, il l'a traduit assez fidèlement, et donc le style de Poe est très beau, quoi. Il n'a pas été amélioré par Baudelaire. Donc ça c'est une légende urbaine qu'il faut battre en brèche. Poe est un très grand écrivain, est un très grand styliste. Ensuite, le retentissement de Poe aux États-Unis, je pense qu'il n'a pas eu besoin de Baudelaire. Quoi. Des gens comme Lovecraft, après, s'en sont largement inspirés. Puis Poe marque le début aussi de la littérature américaine au XIXe siècle. Hein. Avant lui, les deux grands écrivains, c'était James Fenimore Cooper et puis Washington Irving. On est dans un univers complètement différent. C'est le dernier des Mohicans, c'est Rip Van Winkle. Donc le début de la littérature américaine, c'est vraiment... c'est Poe, puis ensuite c'est la génération de Melville et compagnie. Quoi.
Et alors sur cette idée que Baudelaire en France l'a tiré du côté noir, du côté fantastique,
Je pense que ça correspondait à deux choses. Ça correspondait à cette époque de romantisme noir, un peu gothique, hein, et puis ça correspondait aussi plus personnellement au propre ressenti. Il y a une identification complète entre Baudelaire et Poe, donc je pense que Baudelaire l'a... l'a attiré vers ce qu'il est, enfin, c'est reconnu dedans. Et d'ailleurs, il écrit quand il traduit Poe, il écrit à sa mère que quand il traduit certaines phrases, il a l'impression que Poe écrit exactement ce qu'il pensait.
La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, écrit Baudelaire, j'ai vu avec épouvante et ravissement non seulement des sujets rêvés par moi, mais également des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant.
Voilà.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs et vous êtes sur France Culture. Nous parlons d'Edgar Allan Poe avec vous, Thierry Gilibeuf. Avant d'en venir à la traduction de Baudelaire elle-même et poursuivre notre conversation autour de votre traduction par rapport à la sienne, vous tenez à rappeler quand même dans votre introduction à ces nouvelles intégrales que vous faites paraître chez Phébus qu'avant Baudelaire, il y avait du monde. Et on dit que c'est Baudelaire qui a tout découvert, ça n'est pas vrai. Expliquez-nous un petit peu comment, et peut-être d'abord en commençant avec les crimes de la rue Morgue et William Wilson, qui sont en fait deux nouvelles qui ont été non pas traduites réellement avant Baudelaire, mais adaptées. Alors racontez-nous voilà, petit peu cette histoire.
Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc on y allait.
C'était le Far West.
C'était le Far West. Là, pour le coup, on faisait ce qu'on voulait. Et donc, il y a un personnage très intéressant, hein, qui est vraiment un personnage très très intéressant, qui s'appelle Doran Forgue, qui était un ami de Stendhal, qui était parfaitement bilingue et dont.
C'était un ancien avocat qui avait renoncé au barreau.
Voilà, c'est ça. Et qui a carrément pompé Poe. À changer les noms de rues, les noms des personnages, mais à raconter à sa façon l'histoire de les crimes de la rue Morgue et puis je me souviens plus
William Wilson,
voilà exactement. Et il a signé ça d'un pseudonyme Old Nick, qui veut dire qu'il est des surnoms du diable. Donc dès le départ, la légende de Poe s'installe comme ça, ce côté un peu démoniaque. Et Doran Forgue est un personnage très intéressant parce qu'il a publié en France le premier article d'une cinquantaine de pages sur Moby Dick à sa parution. Qui est en fait la même chose, où il a écrit Moby Dick mais en 50 pages.
Alors c'est quand même une adaptation.
Ah oui, c'est une adaptation. Hein.
C'est sur 4 pages. Oui, donc il y a quand même une espèce de réduction.
Ben oui, comme pour Moby Dick, je vous dis, il a fait un Moby Dick de 50 pages. Oui. Donc voilà.
Il doit manquer en effet quelque part.
Et oui, il manque 2-3 bricoles. Et donc c'était une pratique. Alors en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'à un moment donné, il a publié une deuxième version dans un autre magazine sous une autre signature, qu'on l'a accusé de plagier, parce qu'il avait quelques ennemis, on l'a accusé d'avoir plagié la première version. Il m'a dit, la première version, c'est moi qui l'ai faite d'après un écrivain américain. Enfin bon. Et il a fallu son nom m'échappe, j'étais en train de chercher dans mes notes, mais son nom m'échappe. Il a fallu une femme qui était.
Isabella Mary Hack.
Voilà, c'est ça. Qui, elle va traduire, vraiment traduire. Elle est l'auteur des premières traductions de Poe en français. Et ce sont ces traductions, Le Chat Noir en particulier, que va lire Baudelaire. Et c'est comme ça que lui va découvrir cette œuvre. Le mérite de Baudelaire, c'est que eux, ils sont, enfin, il y en a qui ont adapté 2, 3, 4 nouvelles. Isabelle Gerlin a traduit très peu, je ne me souviens plus combien, mais vraiment une poignée. Et Baudelaire, lui, il va en traduire les deux tiers.
43 nouvelles sur 67. Et plusieurs articles.
Voilà. Donc c'est vraiment les deux tiers. Il va faire. On ne sait pas. D'ailleurs, on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi il en avait écarté certaines. Mais bon.
Et vous avez dû vous la poser la question.
Bon, oui, il y en a certaines. On comprend pourquoi il se les parce qu'elles sont moins pertinentes. Ou en tout cas, elles entraient moins dans son propos, je pense.
Vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut oublier d'Edgar Poe?
Oui, bah c'est comme tout écrivain. Hein. Il y a des nouvelles qui sont moins fortes que les autres. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment. Bon, c'est son intérêt pour le paysage fait qu'il peut donner des nouvelles qui sont restent un peu en surface, ou même ses dialogues un peu vaguement platoniciens ou miltoniens, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi.
Ouais. Alors, parmi les nouvelles qu'il faut pas oublier quand même, il y a La Chute de la Maison Usher. Ouais. Je vous propose d'en écouter un extrait dans une traduction qui évidemment n'est pas la vôtre puisqu'il s'agit d'une archive de 1969.
Je regardais ce tableau placé devant moi. Et rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, les fenêtres semblables à des yeux distraits, quelques bouquets de joncs vigoureux, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris, j'éprouvais cet entier affaissement d'âme qui, parmi les sensations terrestres, ne peut se mieux comparer qu'à l'arrière-rêverie du mangeur d'opium, à son navrant retour à la vie journalière, à l'horrible et lente retraite du voile. C'était une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de penser qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand. Qu'était donc ? Je m'arrêtais pour y penser. Qu'était donc ce je ne sais quoi qui m'énervait ainsi en contemplant la maison Huchère ?
Quoi pensez-vous, Thierry Gilibeuf, à l'écoute de cet extrait lu par Roger Coggio ?
Je pense que ça colle parfaitement à la représentation qu'on se fait d'emblée de Edgar Allan Poe. Mmh. On imagine une maison un peu en ruine, un peu mystérieuse, nabée dans le brouillard, une atmosphère un peu humide, l'obscurité.
Vous dites ça avec un petit air, un petit peu de dégoût ou pas ?
Non, pas du tout. Non, c'est parce que...
Comme si c'était un cliché.
En tout cas, c'est la thématique de cette nouvelle, hein, qui renvoie à certaines obsessions de Poe, qui le ramène à sa propre existence. Je pense qu'on aura l'occasion de le développer. C'est que justement l'idée pour nous était, enfin, c'est même pas l'idée, c'était la découverte, c'est de voir que un Poe que l'on imaginait quand on a commencé avec Christian Garcin, parce qu'on les a lus adolescents, puis on les a relus, un Poe qu'on imaginait, voilà, comme ce maître du gothique noir, c'était assez réducteur en fait comme image, quoi. Mmh. C'était vraiment très réducteur. Quoi.
Qu'est-ce qu'il faut lui ajouter alors ?
Pour nous, c'est un maître du grotesque. Voilà. C'est vraiment, ça a été la découverte de qu'on a faite quand on a traduit. C'est un maître du grotesque.
C'est quoi le grotesque pour
Poe ? Eh bien, c'est un pasticheur. C'est un type que c'est un écrivain vraiment assez surdoué, et c'est quelqu'un qui est très très inscrit dans son époque. Donc, on a fait un appareil de notes assez fourni qui n'empêche pas toutes les lectures que l'on veut faire de Poe, mais qui en propose une supplémentaire, qui est celle d'une contextualisation. Et on se rend compte qu'il y a énormément de charges contre les hommes politiques de son époque, contre les autres écrivains. Il n'avait que des ennemis pratiquement dans le monde littéraire parce qu'il était sans doute
très radical.
Oui, puis il avait, c'était au niveau de la critique, c'était une plume excessivement féroce. Hein, donc un peu moins avec les dames d'ailleurs, mais bon, c'était son côté cœur d'artichaut. Et donc c'est quelqu'un qui tourne vraiment en dérision. Et puis que si on prend l'histoire du canard au ballon par exemple, qui a été l'un de ses grands succès, c'est presque 100 ans avant, il fait le coup de Orson Welles avec l'invasion des martiens. C'est-à-dire que
cette histoire.
Eh bien, il a annoncé qu'on avait traversé l'océan Atlantique en ballon. C'était annoncé dans le journal. C'était une farce, hein, ce truc-là. Et les gens se sont précipités dans le port de New York pour pouvoir arriver ce ballon qui évidemment n'est jamais arrivé, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement ce que fera Orson Welles quand il annoncera l'invasion des extraterrestres à la radio. Donc il y a ce sens de la farce. Je suis pas certain que ça ait été un joyeux de riz lui-même, mais il avait sur son époque et puis comme c'était quelqu'un qui était un peu un déclassé aussi sur son époque et sur les grands de son monde, que ce soit les hommes politiques ou les hommes de lettres, un regard excessivement vachard, quoi.
Mais oui, parce que on le lit comme étant un écrivain totalement atemporel, oui. Parce que c'est vrai que dans ses contes, la plupart du temps, il y a assez peu de détails qui fixe le temps et qui fixe la société de l'époque. Il n'y a pas beaucoup de politique, mais en même temps, si vous nous dites que justement, il y a de la politique, mais alors, quelle est cette politique qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que on est peut-être trop longtemps après et qu'on a oublié les personnages politiques qui étaient ceux de l'Amérique d'alors.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a... Je pense qu'aujourd'hui, si on faisait un texte sur la vie politique américaine contemporaine et qu'on le lisait dans 150 ans, il perdrait quand même beaucoup de sa force. Bon, je pense que Donald Trump, malheureusement, passera à la postérité, mais il y a d'autres personnages secondaires qui, aujourd'hui, occupent les premières places, qui seront complètement passés à la trappe. Pour Poe, c'est la même chose. Alors, dans ce cas-là, si son œuvre n'était que contextuelle et que ancrée dans sa contemporanéité, ça n'aurait, enfin, on l'aurait oublié, comme nombre de ses contemporains, justement. Mais il y a une autre dimension. C'est-à-dire que on peut lire Poe sans savoir à quoi il fait référence. Par exemple, il s'en prend énormément aux transcendantalistes, qui était ce mouvement philosophique lancé par Emerson. Il s'en prend énormément à ça. Il appelle Boston la mare aux grenouilles, etc. Mmh. Enfin bon, voilà. Et c'est plein de petites piques, mais c'est très subtil. Mais pour ses contemporains, pour les lettrés de l'époque, c'était clair comme de l'eau de roche, ou quand il faisait certaines allusions, on savait qu'il visait tel écrivain ou tel homme politique. Donc à l'époque, ça percutait, ça tout de suite le lecteur savait de quoi ça parlait. On a voulu réintroduire cette dimension pour montrer justement, pour gommer un peu le côté, enfin en tout cas le remettre à son juste niveau, le côté fantastique noir, et montrer justement ce côté, cet humour un peu grinçant qu'il y a chez Poe. Hein.
Mais alors pour le comprendre, il faut aussi savoir que Poe était politisé et qu'il était très clairement républicain.
Très.
Donc aujourd'hui, il voterait sans doute pour Donald Trump.
Oui.
Et à l'époque, ça se traduit par des attaques en règle de tous les démocrates qui passent dans son viseur, en gros.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je crois que c'est ce qu'on appelait les Whigs. Donc c'est vraiment... oui, il est vraiment dans un camp... Mais alors, vraiment... fondamentalement républicain, lui. Oui.
Comment vous expliquez ça?
Je pense que c'est lié à ses origines virginiennes, c'est-à-dire le Sud, c'est une des premières colonies américaines, donc c'est vraiment l'idée d'être un des pères fondateurs de l'identité américaine, et puis de continuer de l'incarner, alors que New York n'est pas encore la grande pomme. Hein.
Qui n'est pas grand-chose à l'époque, c'est plutôt Boston et Philadelphie.
Voilà, exactement. Oui, New York va monter en puissance plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle. Pardon. Donc, je pense que l'idée du Virginien, c'est vraiment l'auteur... D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand Melville publie un texte sur Nathaniel Hawthorne, qui est une déclaration, assez nombreux textes qui sont des déclarations d'indépendance littéraire américaine et intellectuelle américaine, il le signe un Virginien, alors que Melville, lui, par contre, n'est pas du tout Virginien. C'est-à-dire comme si, pour affirmer l'identité américaine, il fallait se revendiquer de ce Sud-là, de ce Sud, et en l'occurrence de Virginie. Quoi.
Mmh. Alors on peut citer Le Diable dans le Beffroi, qui vise à ridiculiser le successeur du président Johnson, alors Andrew Johnson. Il y a aussi La Nouvelle L'homme rafistolé, qui est une critique d'un autre haut responsable américain, si je ne me trompe. Il y a d'autres allusions aussi à l'époque à laquelle sont écrites ces nouvelles, mais que nous, on ne comprend pas. C'est les allusions à la vie littéraire de l'époque, Thierry Gilibeuf, que vous avez pu retrouver finalement.
Oui, on a beaucoup fouillé parce que ça nous a passionné, en fait. À partir du moment où on s'est rendu compte de ça, on a des contes que l'on pensait connaître très bien, justement, pour les avoir lus, pour les avoir relus, pour les avoir traduits. On s'est rendu compte que il y avait encore d'autres grilles de lecture, donc ça les élargit encore plus, et ça leur donne une saveur supplémentaire, une petite truculence que nous, on a particulièrement goûté, on va dire comme ça. Et donc, on a cherché à chaque fois, on s'est beaucoup posé de questions, savoir si là, il n'y avait pas une illusion masquée, s'il n'y avait pas un petit coup de pique. Et bon, quand on met ça en regard avec son travail critique, on peut reconstituer tout cela. Oui.
Alors, à qui? À Carlyle, par exemple, qui est un petit peu chatouillé.
Oui, ben parce que Thomas Carlyle, qui est un auteur, je pense... très peu connu, enfin, on va dire. C'est un écrivain écossais qui a énormément compté dans son époque, hein, qui est passé aux États-Unis en particulier. Enfin, son œuvre est passée aux États-Unis grâce à Emerson, et qui est l'auteur d'une œuvre assez surprenante et assez inclassable, qui a beaucoup influencé Nietzsche. Oui, je pense qu'il y avait chez Poe une forme de jalousie, parce qu'il, en tout cas inconsciente au moins, mais parce qu'il souffrait d'un manque de reconnaissance. Hein.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors sur la porosité entre l'œuvre de Poe et son époque, il y a aussi, vous l'avez un tout petit peu évoqué Thierry Gilibœuf à l'instant, le fait qu'il récupère quand même un peu des modes littéraires de l'époque. Lui non plus, il n'a pas tout inventé. Hein.
Non.
Et notamment le gothique anglais. Alors il est évidemment très influencé par la littérature anglaise. Sa biographie l'explique d'ailleurs un petit peu. Et finalement, on voit bien à travers cette porosité à la mode que lui aussi, il a envie d'avoir du succès. Il cherche à vendre le plus possible, et on le comprend d'ailleurs, c'est bien normal. Ça n'est pas forcément l'écrivain comme ça, retiré et qui travaille son art de façon totalement désintéressée, ce qui est encore une fois bien normal.
Non, c'est pas. Ben, il faut vivre. Hein. Alors, donc il était astre en même contingence que nous. Donc il fallait gagner sa plume. Et puis il s'est marié assez jeune avec une cousine encore beaucoup plus jeune. Enfin, oui. Je pense que vous avez dû évoquer cela. Et donc il avait 13 ans et il avait sa cousine, sa femme et puis sa belle-mère à charge. Donc il fallait qu'il ramène un peu d'argent à chaque fois. Et c'était pour lui les finances de Poe, c'est les tonneaux de Danaïde. Donc il courait le cachet. Donc il a essayé de publier ses premiers livres. Il les a fait financer quand il était à l'académie de. Oh, j'ai un trou de mémoire. Bon, enfin, c'était une académie militaire. Il a fait financer par ses
West Point.
Voilà. Il a fait financer par ses collègues ses plaquettes de poèmes qui eux pensaient qu'ils allaient y trouver justement ces poèmes un peu potaches qui visaient les officiers de l'académie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il écrivait une poésie. La poésie que l'on connaît, que Mallarmé a traduite. Donc
c'est le problème aussi de Poe, pardonnez-moi, c'est que il est toujours très au-dessus du niveau populaire. Et il y a eu ce directeur du journal Le New York Mirror qui disait il est tellement au-dessus du niveau populaire que on peut pas imaginer qu'il soit bien payé.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est quand même assez surprenant comme logique. Hein. Non, il était mal payé. Il fallait qu'il fasse de la copie. Il rêvait d'avoir son propre journal. Je pense que là, il aurait eu les coups des franches. Donc, il s'est vraiment, il s'est battu comme un diable. Et en effet, il y a les sujets à la mode. Il y a donc ce qu'on appelle le mesmérisme, c'est-à-dire, bon, on va dire vaguement le magnétisme comme ça. Il y a les tables tournantes, toutes ces sites, l'histoire de. Il est très au fait des découvertes scientifiques. Et il va s'approprier toutes ces modes. Parfois, pour essayer de faire quelque chose des œuvres qui sont plus noires, plus denses, plus on va dire plus sérieuses entre guillemets, et puis sinon pour les tourner en dérision, il va assez souvent se moquer des livres à la mode, hein, et dont il va railler les thématiques et même la trame, quoi.
Thierry Gilibœuf, vous restez avec nous, on va continuer évidemment de parler avec vous d'Edgar Allan Poe. Mais pour l'heure, c'est le moment d'accueillir Maïhélène Berasategui pour la chronique de la compagnie.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Maïhélène Berasategui du nouveau magazine littéraire, bonjour à vous.
Bonjour.
On le sait, l'univers d'Edgar Poe continue d'inspirer les créateurs. On connaît la fameuse chanson des Beatles, I am a Walrus, qui le cite, mais son influence, elle va au-delà du domaine de la littérature et de la musique pour atteindre jusqu'à celui, et oui, du jeu vidéo. Et c'est de cela que vous voulez nous parler aujourd'hui.
Absolument. Alors en fait, j'étais étonnée quand même par la pléthore de références à Edgar Poe qu'on peut trouver dans tout un tas de jeux vidéo. Le volume le plus nombreux de types de jeux vidéo sur Edgar Poe, c'est bien évidemment les jeux d'aventure, les jeux un peu policiers. L'un des plus aboutis, c'est un point and click, donc un jeu où en gros on cherche des objets, on combine des objets et on parle à des gens.
Vous dites un point and click en stop motion.
Oui, tu pointes et tu cliques, c'est un point and click et c'est un stop motion, ben, comme moi là c'est Gromit. Ah. Tu fais des figures et puis après.
Ah d'accord.
Et voilà. Et c'est bien fichu, mais ça date de 95, hein, donc forcément aujourd'hui ça fait un peu mal aux yeux. Mais ça s'appelle The Dark Eye, et c'est un jeu où on alterne un mode jour, du coup, où le héros peut interroger les gens, etc., et un mode nuit où il cauchemarde. Et pendant ses cauchemars, il vit plusieurs nouvelles d'Edgar Poe, Et à chaque fois qu'il y a un meurtre, du point de vue du meurtrier et du point de vue de la victime. Mmh. Et du coup, c'est un projet qui avait été mené à bien grâce à William Burroughs, l'écrivain américain, qui avait prêté sa voix au narrateur et qui lisait donc les textes de Poe. Il y a toute une série de jeux de recherche d'objets pour le coup. Le but, c'est de trouver l'objet caché dans l'image sur Edgar Poe qui s'appelle Dark Tales, où vous avez plusieurs... Je pense qu'en fait, le format nouvelle s'adapte très très bien à ce type d'adaptation, parce que si on compare à d'autres ponte de la littérature policière comme Wilkie Collins, qui est aussi un opiomane, donc qui peut aussi avoir son image de, d'auteur. Vous dites
pas que les joueurs de jeux vidéo sont des opiomanes, enfin.
Alors, les joueurs de jeux vidéo, non, mais l'auteur dont on s'attendrait à ce qu'il puisse être adapté pour ce type de jeu-là, il y a beaucoup, beaucoup moins de références à un auteur comme Collins que Poe, par exemple, de ce point de vue-là.
Alors, évidemment, on en parlait avec Thierry Gilibeuf, c'est peut-être la dimension fantastique qui joue le plus dans l'appétence des créateurs de jeux vidéo à reprendre Edgar Poe. Est-ce que vous l'avez aussi noté, Mayalen, ou pas ?
Beaucoup plus, mais beaucoup plus en termes de références. C'est jamais le sujet principal de la chose, mais ça apparaît ici et là, parce que c'est le jeu vidéo, c'est pas un monde clos, c'est un monde qui se nourrit énormément de culture populaire et qui est lié à tous les autres arts, à la bande dessinée, au cinéma, à la littérature. Et donc, beaucoup de jeux citent Edgar Poe, par exemple, dans Blood, qui est un Doom-like. C'est un jeu où on a sa petite arme et où on tue tout le monde. Un Doom-like. Donc, c'est Blood. C'est un jeu des années 90 qui est sorti au moment où il y avait plein de films d'horreur parodiques. Et du coup, il voulait être un peu la version jeu vidéo de ça. Et ça commence, enfin, dans une des toutes premières scènes, vous êtes dans un cimetière et vous croisez un corbeau qui répète nevermore, nevermore, comme ça dans le cimetière. Donc, vous avez plein de références comme ça. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de programmeurs de jeux vidéo qui peuvent sortir de manière beaucoup plus indépendante leur propre jeu. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de micro-jeux téléchargés par trois personnes qui existent. Mmh. Par exemple, un jeu qui s'appelle Alan Poe's Nightmare. Alors là, c'est un jeu... Le cauchemar d'Alan Poe. Vous êtes Alan Poe, vu de profil. Donc, vous avancez comme ça sur l'écran et il faut que vous arriviez à attraper des lettres.
Je vois que ça plaît beaucoup à Thierry Gilibeuf.
Qui forment des mots.
Vous allez le télécharger, non ?
Extrait des nouvelles d'Alan Poe. Donc, il y a tout et n'importe quoi maintenant. C'est assez incroyable de ce point de vue-là.
Vous voulez dire un mot ?
Non, parce que moi, au niveau jeux vidéo, ce que j'expliquais tout à l'heure, je suis resté à Pac-Man. Alors,
Bah, elle aussi, elle parle de jeux vidéo de 95.
Oui, voilà.
Donc, c'est un peu plus. Je regarderai. Alan Poe, c'est récent.
Je regarderai.
Alors, il y a évidemment aujourd'hui pas mal de jeux à succès qui se déroulent en ligne, qui sont des jeux multijoueurs. Est-ce que du coup, ça condamnerait Mayalen, Edgar Poe, à être absent des grosses productions d'une manière ou d'une autre ?
Pas sous forme de référence. Les gros mastodontes récents citent aussi Edgar Poe. Les jeux de recherche d'objets, ils sont aussi récents et ils marchent très bien, mais ils sont très méprisés des critiques parce que c'est une forme de jeu qui est assez simple, même si elle peut être très très riche sur le plan des univers qui sont développés. Mais quand on prend les gros jeux en ligne comme Overwatch ou comme Fortnite, par exemple, ils vous vendent des costumes de personnages. Vous avez un costume Raven dans Fortnite qui coûte 15 euros.
Voilà, Raven,
15 euros Edgar Poe.
Du nom du grand poème d'Edgar Poe.
C'est ça. Et du coup, donc, quitte à dépenser 15 balles pour avoir votre costume d'Edgar Poe pour votre personnage, moi je vous propose plutôt de vous rabattre sur une autre forme vidéoludique qui n'est pas stricto sensu un jeu vidéo. Il y a aussi des livres enrichis d'Edgar Poe qui existent. Il y a notamment une appli qui s'appelle Hypo.
Il y a trois. Hypoe.
Ouais, absolument. Hypo. Et vous avez des nouvelles d'Edgar Poe avec des illustrations qui s'animent, avec des musiques un peu effrayantes comme ça. Et du coup, ça permet de redécouvrir les textes sous un nouveau jour.
Voilà, on va aller voir ça. Merci beaucoup, Mayalen Berasategui. On retrouve votre signature, non pas dans Jeux Vidéo Magazine, mais bien dans les pages du nouveau magazine littéraire. C'est la suite de La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Thierry Gilibeuf qui vient de retraduire avec Christian Garcin les nouvelles d'Edgar Poe écrites entre ses 20 et 30 ans avant la parution du reste de ces nouvelles dans quelques temps. Tout cela, ce sera Essai chez Phébus. Et on trouve dans ce premier volume qui paraît donc le comte William Wilson, dont on a déjà parlé mais dont on va parler encore davantage. En voici un extrait dans une lecture d'une archive qui date de 1964.
Je m'étais toujours senti de l'aversion pour mon malheureux nom de famille. si inélégant, et pour mon prénom, si trivial, sinon tout à fait plébéien. Ces syllabes étaient un poison pour mes oreilles. Et, quand le jour même de mon arrivée, un second William Wilson se présenta dans l'école, je lui en voulus de porter ce nom. Et je me dégoûtais doublement du nom parce qu'un étranger le portait. Un étranger qui serait cause que je n'entendrais prononcer deux fois plus souvent. Le sentiment d'irritation créé par cet accident devint plus vif à chaque circonstance qui tendait à mettre en lumière toute ressemblance morale ou physique entre mon rival et moi. Il me donnait la réplique avec une parfaite imitation de moi-même, gestes et paroles, et il jouait admirablement mon rôle. Mon costume était chose facile à copier. Ma démarche et mon allure générale, il se les était appropriés sans difficulté. En dépit de son défaut constitutionnel, ma voix elle-même ne lui avait pas échappé. Naturellement, il n'essayait pas les tons élevés, mais la clé était identique, et sa voix, pourvu qu'il parlât pas, devenait le parfait écho de la mienne. À quel point ce curieux portrait, car je ne puis pas l'appeler proprement une caricature, me tourmentait, je n'entreprendrais pas de le dire. Je n'avais qu'une consolation. C'était que l'imitation, à ce qu'il me semblait, n'était remarquée que par moi seul, et que j'avais simplement à endurer les sourires mystérieux et étrangement sarcastiques de mon homonyme.
Lecture par Jean Mercure. Alors il faut parler un petit peu de cette nouvelle parce que c'est une des nouvelles les plus importantes de Poe. Je crois que c'est même votre préférée, c'est vrai ?
Je pense que c'est une de mes préférées, oui.
Ouais, pour quelle raison ?
Alors, juste, je vais vous répondre, mais vous aviez parlé tout à l'heure des Beatles, dont je suis un grand fan. Faut dire que je suis quelqu'un de moderne, Pac-Man et Beatles. Et donc, Poe figure sur la pochette de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et de mémoire, il est dans au dernier rang. Voilà, c'était juste là.
C'est important qu'il soit au dernier rang?
Non, je ne sais rien. C'est parce que je crois qu'il est au dernier rang, parce qu'on le voit, on le reconnaît. Il est assez reconnaissable quand même. Il a une tête assez reconnaissable. William Wilson, parce que je trouve que c'est... Je reviens à votre question maintenant. C'est parce que je pense que c'est une des nouvelles les plus maîtrisées de Poe au niveau de l'écriture, au niveau de la progression de l'intensité narrative. Et puis cette thématique du double est quand même fascinante. Hein. Elle est, je dirais même que c'est un peu la base du conte fantastique, mais aussi du conte identitaire, psychologique. Voilà.
Alors on va raconter un petit peu l'histoire. Hein. Ça se passe dans un pensionnat que le narrateur décrit d'ailleurs comme un vieux bâtiment irrégulier dans lequel il est difficile de dire si on est au premier ou au deuxième étage.
Ben ça, ce sont voilà ce genre de détails par lesquels on introduit aussi un mystère. On est presque dans une perspective à la M.C. Escher, c'est-à-dire sait plus trop le regard ne sait plus s'adapter, et donc du coup ça crée un déséquilibre d'emblée, un déséquilibre du décor, du cadre, qui fait que le narrateur et puis le lecteur vont perdre des repères qui lui auraient permis peut-être de rester dans la rationalité.
Quoi. D'ailleurs, il y a un jeu de mots en anglais sur story, en américain l'étage.
Ouais. Et qui veut dire aussi histoire.
Voilà. Évidemment, l'histoire aussi. Alors, donc il y a ce jeune homme qui est pensionnaire, qui n'est pas quelqu'un de très sympathique, il faut bien le dire, c'est un buveur, un joueur, c'est même un truqueur qui escroque ses camarades. Quel portrait on peut faire de lui, Thierry Gilibeuf ?
Je pense que là,
vous
avez dit l'essentiel, oui, c'est ça, c'est ce personnage. C'est pas l'escroc sympa, en fait, hein. C'est plutôt le filou roublard et puis sans état d'âme, quoi, hein. Et qui n'a pas du tout envie de tisser des liens de sympathie. Donc ça aussi, c'est un choix habile de Poe de ne pas nous créer un personnage auquel on va s'attacher. Donc, ça va rajouter au malaise quand on va apparaître ce double, justement.
Mais, c'est quelqu'un à qui on ne s'attache pas, mais qui en même temps est capable de reconnaître qu'il est lui-même un pervers.
Oui.
Et on sait que ça, c'est important, le rapport de Poe à la perversité. Mais c'est encore plus étonnant quand le narrateur est capable de dire qu'il est pervers.
Oui, mais disons que ça a fait le lit des exégèses psychologiques de l'œuvre de Poe. Je pense que lui, c'est en ça que cette nouvelle est quand même assez fascinante. Il est dans une parfaite lucidité, le personnage est dans une parfaite lucidité, le narrateur est dans une parfaite lucidité, l'auteur dans une parfaite lucidité, et donc ce qui fait qu'il y a à aucun moment l'histoire ne va échapper à Poe. Il va la diriger et la maîtriser complètement, et justement par le fait que le personnage central donc fait cet aveu de sa propre perversion, ça nous permet à nous lecteurs de rentrer encore mieux dans sa psychologie. Et donc je disais qu'il n'était pas sympathique, et malgré tout on s'approche de plus en plus du personnage. Il y a une espèce d'empathie un peu inquiète qui se crée avec lui, quoi.
Alors, arrive un jour un autre élève qui lui ressemble en tout point, sauf qu'il a une difficulté à parler. Il parle un peu comme François Mauriac, on l'entend à peine comme ça. Et c'est la seule chose qui finalement les distingue à peu près. Donc c'est l'irruption du double. Et ensuite, que se passe-t-il, Thierry Gilles?
Je pense que... C'est difficile de raconter la suite sans dévoiler la. Pour moi, c'est un peu difficile de raconter la suite sans dévoiler la chute, quoi. Mais c'est la thématique du. C'est vraiment la thématique du double et du dédoublement, en fait. On souhaite. C'est ce qu'on se retrouvera chez Stevenson, chez Conrad, qu'on trouve aussi chez Melville. Et c'est-à-dire, ça permet à. Le fait de doubler une personnalité, de créer un. Donc, vraiment, ce personnage du double. Ce n'est pas que ça multiplie par deux les possibilités d'histoire, c'est presque, enfin c'est mathématique, c'est presque un exponentiel, c'est un truc au carré, c'est-à-dire qu'on est, les champs possibles sont complètement démultipliés, quoi. Il y a toutes les possibilités qui se tissent entre ces deux personnages, et bah oui, c'est difficile de raconter.
Parce on ne va pas raconter la fin. Bah ouais, voilà, mais alors, on peut peut-être dire que ça peut faire penser, par exemple, à Fight Club. Encore un film un peu vintage qu'on peut convoquer.
Oui, voilà. C'est exactement ça.
Ça se passe en Angleterre, ça ne se passe pas aux États-Unis. Y a-t-il une raison pour cela?
Ça peut être parce que Poe a fait un court séjour avec ses parents adoptifs en Angleterre.
Voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin.
Bon, a priori, non, je ne vois pas. Ou alors, est-ce que c'est un hommage rendu à la littérature gothique anglaise? Non, je vois pas plus de raisons que ça, quoi.
Parce qu'on a dit aussi que c'était la nouvelle la plus autobiographique de Poe.
Oui, ben je pense que c'est je pense qu'il n'a pas été très heureux dans ces je pense que de manière générale il n'a pas été très heureux, mais bon, dans ces années-là il n'a pas été très heureux, quoi.
Donc vous l'avez traduite évidemment comme les autres, la traduction de Baudelaire qu'on a entendu, spécifiquement, est-ce que ce serait un bon exemple? Peut-être vous pourriez nous dire comment est-ce qu'elle diffère de la vôtre. Alors vous avez peut-être pas les deux textes comme ça en tête, mais de manière un petit peu globale.
Alors évidemment, quand on s'est lancé dans le travail de traduction de Poe après Baudelaire, on a pris une cuirasse et une armure.
Tout le monde doit vous dire, mais alors, comment faire pour passer après grand poète?
Ça va les chevilles, voilà. Donc c'est, bon.
On vous l'a dit beaucoup?
On a, au début, après non. Donc la seule chose, Ezra Pound disait que chaque génération devrait retraduire ses classiques. La traduction de Baudelaire, pour nous, on s'est dit, voilà, Poe, Baudelaire, quand on a lu la biographie de Walter, etc., on s'est dit, bon, mais enfin, Poe, c'est pas exactement l'image qui nous a été transmise par involontairement, hein, presque, hein, par Baudelaire. Et donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'aussi sur le texte, il y a quelque chose à changer, il faut peut-être débaudelairiser Poe. Oui. On s'est rendu compte qu'au niveau de la traduction de Baudelaire, elle est, comme je vous l'ai dit, on a relevé quelques contresens.
On peut en citer quelques-uns, hein, d'ailleurs. Oui. Parfois, obstination devient perversion.
Oui, voilà.
C'est presque psychanalytique.
C'est exactement. Oui, je pense que là, c'est vraiment psychanalytique même.
Alors, les yeux limpides deviennent des yeux vitreux.
Oui.
Voilà. Dans Parmi les lions, le sixième ciel devient ce plus drôle, le sixième siècle.
Oui.
Il y en a d'autres comme ça qui vous viennent à l'esprit?
Non, à l'esprit, non, mais on a relevé comme ça des petits contresens, mais pas tant que ça. On en a relevé un certain nombre, mais pas tant que ça. C'est ce que je dis, il faut retraduire parce qu'on, d'une part, la langue évolue, en 150 ans, elle a évolué. Et d'autre part, le rapport à la traduction a complètement différé, a complètement changé depuis l'époque de Baudelaire. Et par exemple, Baudelaire est rigoureusement fidèle dans la traduction. Donc en anglais, les répétitions sont un truc qui sont totalement autorisées. Et donc, quand on veut créer, alors sauf parfois où il faut en effet créer cet aspect un peu litanique l'anaphore, maintenant on appellera ça.
Donc on parle de quel président en particulier? Un ancien président.
Depuis pas mal copié, on va dire. Ouais. Et donc voilà, ce processus narratif parfois est utile, mais les Anglais vont mettre huit fois dans une phrase, et Baudelaire va traduire et virgule, huit fois. Sauf que, en français, ça heurte un petit peu quand même l'oreille sensible. Donc voilà, ce genre de choses. Après, la langue de Baudelaire, c'est une langue des années du milieu du 19e siècle. C'est bon, c'est la langue de Baudelaire aussi, et c'est quand même pas rien. Mais, on trouvait que par moment il l'avait un peu figé dans un cadre, mais en fait la débaudelairisation, ce que je vous disais tout à l'heure, nous c'est dans la représentation de Poe, et en faisant le choix de publier aux éditions Phébus les volumes les nouvelles par ordre chronologique, ça permet de casser le moule nouvelle fantastique.
Baudelaire ne les avait pas organisés de cette façon-là.
Ils avaient organisé de façon thématique. Et donc ça permet de voir justement l'œuvre complète de l'homme dans sa progression, dans sa façon de se répondre, de sa façon de se parodier, et c'est en ça que et donc justement de faire ressortir un personnage de Poe un peu différent, voire assez différent de celui que l'on avait jusque-là. Quoi.
Votre démarche, vous l'avez résumée dans cette phrase qui consiste à dire que vous voulez parvenir, je cite, à cet état d'objectivité réceptive qui est celui des auteurs des haïkus japonais.
Oui, je ne sais pas ce qu'on avait pris quand on a écrit ça.
un thé
vert, exactement, voilà.
Alors, parmi les nouvelles de ce premier volume, il y a aussi le manuscrit trouvé dans une bouteille, texte qui avait paru en juin 1833 dans le Baltimore Sunday Visitor. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait.
Le navire, avec tout ce qu'il contient, est imprégné de l'esprit des anciens âges. Les hommes de l'équipage glissent çà et là comme les ombres des siècles enterrés. Dans leurs yeux vit une pensée ardente et inquiète. Et quand, sur mon chemin, leurs mains tombent dans la lumière effarée des fanaux, j'éprouve quelque chose que je n'ai jamais éprouvé jusqu'à présent. Quoique toute ma vie j'ai eu la folie des antiquités et que je me sois baigné dans l'ombre des colonnes ruinées de Baalbek, de Tadmor et de Persépolis, tant qu'à la fin mon âme elle-même est devenue ruine. Concevoir l'horreur de mes sensations est, je crois, chose absolument impossible. Cependant, la curiosité de pénétrer les mystères de ces effroyables régions surplombe encore mon désespoir et suffit à me réconcilier avec le plus hideux aspect de la mort. Il est évident que nous nous précipitons vers quelque entraînante découverte, quelque incommunicable secret dont la connaissance implique la mort. Peut-être ce courant nous conduit-il au pôle sud lui-même. Il faut avouer que cette supposition, si étrange en apparence, a toute probabilité pour elle.
Extrait donc du manuscrit trouvé dans une bouteille. Vous avez peut-être reconnu l'acteur. Il s'agit de Michel Bouquet et l'archive date de 1962. Alors c'est un conte important quand même dans l'histoire d'Edgar Poe parce que c'est un des premiers. Hein. Évidemment, dans le tome 1 que vous faites paraître, il n'y a que les 10 premières années. C'est normal, les autres viendront ensuite. Mais il avait reçu un prix de $50 pour cette nouvelle et ça avait attiré l'attention du journaliste John Kennedy. Et c'est lui qui allait lancer un petit peu la carrière journalistique d'Edgar Poe. Donc, à plusieurs titres, en fait, c'est un conte qui est important.
Oui, c'est un conte qui est important aussi par... Quand Poe va mourir, il va appeler un Reynolds, un personnage qui était un personnage très très populaire à son époque, qui avait popularisé à travers ses conférences sa théorie de la Terre creuse. Et donc ça, c'est devenu une espèce d'obsession pour Poe, et ça revient plusieurs fois, plus ou moins directement dans ses nouvelles, et donc ça donne lieu à un imaginaire, l'idée qu'on pourrait descendre sous terre. Ce que fera,
là, on retrouve Jules Verne quand
exactement,
même.
Exactement, mais Jules Verne qui était lui-même un très grand admirateur de Poe et qui écrira une suite aux aventures d'Arthur Gordon Pym, un livre qui s'appelle Le Sphinx de glace, donc, et qui écrit un texte, son seul texte et ses critiques à Jules Verne, c'est un essai sur Poe. Donc oui, il y a d'une part le côté matériel, puisque ça, en effet, il va avoir le pied à l'étrier grâce à ce prix, grâce à ce journaliste, ce directeur de journal. Et puis il y a aussi, on est dans une des thématiques, et c'est un écrivain qui, mis à part son court séjour en Angleterre, qui a très peu duré, de 3 ans, dans son enfance, adolescence, quelqu'un qui n'a jamais quitté les États-Unis.
Il a beaucoup voyagé dans les États-Unis.
Oui, sur la partie est, quoi. Voilà, il a parti
entre les États-Unis de l'époque.
Oui, voilà, entre New York et la Virginie, en gros, quoi. Il a fait non, pas New York, c'est plus bas. Entre Boston et Richmond, quoi. Il a fait. D'ailleurs, avec Christian, nous avons fait l'année dernière un pèlerinage, entre autres sur les traces de Poe, mais qui nous a entraîné. Oui, c'est ça.
Ça vous a aidé pour la traduction?
Non, parce qu'on l'avait pratiquement, terminé, mais ça nous a, non, de l'avoir fait, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais de l'avoir fait après, en tout cas, ça avait quelque chose d'assez émouvant pour nous d'aller sur ces traces, que ce soit à Providence, que ce soit à Richmond, que ce soit à New York, voilà, on a cherché on est allé manger dans le restaurant où il a écrit la nouvelle, le tonneau d'Armontillado qui est dans la deuxième tome, etc. Voilà.
Enfin, vous n'avez pas suivi la côte en bateau, vous n'avez pas essuyé les
tempêtes. On est allé visiter son cottage, voilà.
Comme dans le manuscrit trouvé dans une bouteille, parce que c'est ça, hein, c'est l'histoire d'une tempête, avec d'abord deux compagnons qui tiennent le coup, alors que tous les autres marins sont passés par-dessus bord, jusqu'à ce que l'un des deux se retrouve projeté sur un autre bateau, où il va se retrouver là, Thierry Gilibeuf, au milieu de personnages plutôt étranges.
Oui, mais on voit. Enfin, là, je ne sais plus en mémoire les sources de Poe, mais là, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est capable aussi de partir de son propre imaginaire, c'est-à-dire peut-être un point de départ assez ténu, pour aller basculer vers quelque chose. Là, je pense qu'on est dans les grandes nouvelles fantastiques, là, pour le coup, de Poe. On n'est plus du tout dans ce, je me renie par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un maître du grotesque, mais c'est aussi quand même.
On a le droit de se renier quand on parle de Poe lui-même, revendiquer cela.
Voilà, et ben, c'est aussi un maître, évidemment, du fantastique et de ce fantastique un peu inquiétant, un peu. Et moi, là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a frappé, mais plutôt quand on a fini à la fin de notre travail avec Christian, c'est à quel point un autre auteur pour lequel je me passionne est redevable à Poe, c'est Joseph Conrad, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un univers conradien. Il y a quelques nouvelles comme ça de Conrad qui sont vraiment, on sent, calquées sur celles de Poe, quoi. Donc oui, là, il y a toujours chez Poe une façon d'amener le récit à son point central, à son épicentre. Et il l'amène d'une façon parfois détournée. Il va dans une direction, on le suit, puis tout d'un coup, tac, il va décrire un coup de brutal vers la droite, ce qui est un peu le piment narratif, et il va dérouter littéralement le lecteur qui, du coup, va perdre ses repères et se bascule, même sans forcer le trait, bascule dans un univers complètement où on n'a pour le coup plus aucun repère, où on est nimbé d'emblée de mystère, quoi, sans forcer le trait. Il n'y a pas de monstre, il y a du surnaturel, mais juste subtilement dosé. Enfin, c'est toujours bien fait.
C'est là où on est dans Lovecraft aussi. Vous parlez de Providence, la ville justement de Lovecraft.
Oui, voilà, il y a la ville de Lovecraft qui est une des dernières amantes, une des dernières femmes que Poe a essayé d'épouser. Vivait à Providence, et donc nous sommes allés à l'Athénéum, qui est la bibliothèque publique, et au sous-sol, il y a un fauteuil dans lequel Poe allait lire le journal, et à sa suite, ensuite, Lovecraft allait lire le journal dans le fauteuil de Poe. Donc c'est vraiment une relique.
Il y a de la mélancolie chez Poe.
Il y a une petite forme de mélancolie, teintée peut-être d'une pointe d'amertume. Mais il y a chez l'homme quelque chose de profondément mélancolique, hein, quand même, qui transparaît, je pense, davantage dans sa poésie.
Et qui vous le rend attachant?
Oui. Moi, je trouve que c'est un personnage excessivement attachant. Je vous dis, si je reviens à cette biographie de George Walter, ça nous montre un personnage excessivement attachant qui est un génie littéraire assez indéniable, qui a travaillé toute sa vie comme un damné, qui serait sans doute surpris aujourd'hui de savoir quelle est sa stature littéraire, et alors que lui n'a rien gagné pratiquement avec eux. Il a passé son temps à travailler, bon, il a eu une mort tragique, enfin bon.
Merci beaucoup Thierry Gilibeuf. Je rappelle que vous venez donc de faire paraître le premier tome des Nouvelles complètes de Pau dans cette nouvelle traduction que vous avez assurée avec Christian Garcin, c'est aux éditions Phébus, et on attend donc maintenant avec impatience les tomes à venir. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide d'Anne-Vanessa Prévost, de Didier Pinault, de Laurence Malonda, de Lorraine Travaglichanal, de Stéphanie Vélin et de Jean Frédérics. Demain, avec Jean-Pierre Nogrette, nous parlerons notamment du Scarabée d'Or, mais également du double assassinat dans la rue Morgue et des aventures d'Arthur Gordon Pym. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Au troisième jour, avec Isabelle Sbrissa, on sait que la langue va courir et se donner des épreuves. Des règles strictes à chaque nouvelle expérience, celle du sonnet par exemple. 14 et pas plus, 14 lignes. Réécriture de presse. À la première page, ça donne du premier. Fric, piste, pic, schiste, lex, ic, tox, ic, a, sion, na, sion, gaz, naz. Très bien, très très bien, ça nous met en route. Et ben, le quatrième, par exemple, du 3 du 4, est plus long. Econopouch, Portugal grogne, non-budget touch, non-europargne, trou financier, groupe Vinci, eurobanquier, en fait profit, cum troïka, libre marché, précarité, pouvoir d'appât, forad acquis, LFMI. Alors plus loin, ça va être plus difficile peut-être, du 9. Concratie démosomatrice, regavée compresentation, incorporated financiatrice, déloctorale d'évaluation. Interjection d'indignation camp, trademark défilé prime time, du désajusté corps légal cramp, décimé easy, sans couper primes. Reality nue et donomique, Mac universel powerist, de consommateurs amphisionique, globo-croissance regioned, yes we canos de capital homme, direction exit par le bottom. Pour que du langage monte de tout ce qui me fait, dit-elle, tout ce qui lit les mots entre eux autant qu'à mon corps, je parle une langue tout autre, incompréhensible, non sociale, sans pouvoir ni rhétorique ni de communication. J'entre dans cette langue comme dans l'air ou dans l'eau, seul et sans but. Montent alors des paroles obscures qui forment une matière dense, vivante et sans trou, et que je nomme poème. Et nous, nous choisissons, pour terminer, publicité. Sécurité et top satisfaction de nos clients nous tiennent à cœur. Tous nos contrôles qualité visent à la perfection. Jamais nous ne faisons de compromis sur l'absolue qualité de la vaste gamme de nos produits. Avant la production, les matériaux sont passés à la loupe, les contrôles fonctionnent de tout temps à plein régime, comme si ça ne suffisait pas, les produits finis passent une batterie de tests rigoureux sous l'œil d'experts indépendants. Notre objectif, faire en sorte de vous garantir bien-être et santé pour vous tous. Nous pensons l'idéal, c'est Lidl. Bien, puisque nous sommes en forme, ça a l'air de se délier. Allons-y, à 18 pieds, tentons du 18. La lutte anti-monobloc orthomonétaire ou synthétique côté, tine à vide radical, système révolutif équatorial, a vaincu sans dédit, amassé par implantation massicotée, incandescent l'oriflamme déverbant du politico-social. L'entame bien vibre, bucco-rinçage voculatoire, tic-tac. Populauté sur harmonieuse, relation avec nature, en sur, mieux vivre, exploito message haut de rosse avec débris en flaque, désormais électivement imprenable, nous sommes vous en pur.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes d'Isabelle Sbrissa.